Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous demander qui est ici pour une première fois. Je voulais aussi. Est-ce qu'on se le connaît? Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Wow, bravo, félicitations. Merci d'être ici parce qu'on devait être. Cette journée devait avoir lieu le 10 juin et nous avons dû la devancer pour une multitude de raisons. Je ne savais pas qu'aujourd'hui on avait le tour de l'île. Alors donc, il y a plusieurs qui ont dû être pris dans le trafic, s'ils ne sont pas en grève, non. Ou ils sont en train de pédaler. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire aussi. Est-ce que ça paraît? Je suis en train de pédaler? Non? Okay. Qui a assisté aux journées de pleine conscience durant cette journée, durant cette année? Nous avons commencé au mois de septembre. C'est notre dernière journée de pleine conscience de l'année sur la série des sur l'enseignement du sutra Satipatthana. Alors, je voudrais savoir qui a assisté aux séances précédentes et combien. Qui a assisté à la dernière? L'avant-dernière. La série des neuf. Faites semblant de dire oui. Donc, comment on fait pour conclure une série avec des personnes qui n'ont pas commencé et qui n'ont pas été durant et qui n'ont pas été à la dernière. Ok, donc l'instant présent, excellent. Je vais essayer de faire un récapitulatif très rapide. Et après cela, je vais m'arrêter pour une petite pause. Pour vous demander des questions. Et nous poursuivrons avec en fonction des questions que vous avez après le marathon que je vais faire. Je ne sais pas si c'est un marathon ou un sprint qu'on doit faire. Une demi-heure, 3 ans de cours. Parce que nous sommes aussi à notre 3e année d'enseignement pour les amis qui suivent notre entraînement pour devenir membre de l'ordre de l'Inter-être. Il y a Marie-Agnès et vous présentez. Et Julie, qui nous ont suivis depuis quelques années pour ce programme. Donc, il y a quelques années, nous avons appris qu'est-ce que nous avions appris il y a 2 ans? Nous avions appris les 4 nobles vérités. Et comme nous sommes un peu plus sérieux que les autres étudiants de bouddhisme, nous avons étudié les 4 nobles vérités, mais en fonction des 12 mouvements de la roue du dharma. Les 4 nobles vérités, la souffrance. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça ou non, c'est ce qui m'a amené dans cette pratique. Et donc, la première noble vérité, la souffrance. Et la souffrance est un mot qui ne peut être pas la meilleure traduction de ce que nous... de ce que le Bouddha a voulu illustrer, mais c'est surtout cette sensation d'être constamment insatisfait. On ne semble jamais être content de ce qui se passe à l'instant. Il y a toujours quelque chose qui ne semble pas bien aller. Et quand les choses vont bien, à un moment donné, on stagne et puis on veut trouver d'autres choses. Alors donc, c'est cette sensation-là qui est décrite. Oui, il y a la souffrance, mais la souffrance c'est quelque chose qui heureusement n'arrive pas aussi souvent. Alors je voudrais juste ici mentionner qu'il y a une nuance et une différence entre la souffrance et cette sensation de mal-être et lorsque nous avions appris ce dukkha. Selon l'enseignement que nous avions appris avec les quatre nobles vérités, c'est que tout a des raisons et des causes. Et cette souffrance ou ce dukkha est due à des causes. Ça ne tombe pas du ciel et c'est créé par quelque chose. Il y a beaucoup de causes qui font que. Et si on enlève les causes de cette souffrance, la non-souffrance apparaît. Alors la non-souffrance ou ce mieux-être, better being, well-being, c'est seulement l'autre aspect du ill-being. On appelle bonheur. Et pour passer d'ici à là, il y a un enseignement et c'est le 8, the Noble Eightfold Path. Le chemin des huit, le noble sentier octuple. Merci. Donc les huit pratiques. Alors ce sont ces choses-là que nous avions appris il y a 2 ans. Ensuite de ça, on s'est dit, oui, tout ça c'est très beau, mais comment est-ce qu'on le fait? Donc, c'est avec les huit pratiques. Et donc, parmi les huit pratiques, il y en a une qui s'appelle... Est-ce que vous vous souvenez des huit pratiques? Et trop vite. La première, c'est quoi? Right view. Et c'est quoi la vue juste? Ok. Et comment est-ce qu'elles sont? Pardon? Il y a peut-être aussi une autre façon de voir la vision juste. C'est que ceci est parce que cela est. Ceci n'est pas parce que ceci n'est pas. Et... que tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui apparaît aujourd'hui, tout ce qui se manifeste aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui, dépend de toutes les conditions qui l'ont alimenté. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel phénomène. Et c'est très important ce que nous sommes en train de discuter ensemble ici. Ça peut être ma personne. Je ne suis pas tout d'un coup apparu comme une bénédiction. Non, certainement pas. Je suis le résultat de toute une vie. Je suis aussi le résultat de tout ce qui a contribué à ma vie. Et de la même façon... je ne suis. Alors c'est le principe de causalité et le principe de l'inter-être et de l'interdépendance qui constitue la vision juste. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Quels sont les autres 7? Ça, on est toujours dans la vision juste, c'est ça? D'accord. De toute façon, il y en a 7 autres. Je vais continuer mon sprint. Alors donc, c'était une question qui... qu'est-ce que vos lecteurs vous disent? Qu'est-ce que les lecteurs vous disent sur les 8? Rien. Et on s'est aperçu que pour pratiquer ces sept ou ces huit les huit chemins ou les huit pratiques. D'accord. Donc les huit pratiques du chemin ou les huit branches du chemin ou alors pour pratiquer ces huit qu'on pouvait pratiquer chacune et en pratiquant une comme il faut par leur nature interdépendante. Nous pouvons choisir une de ces huit et lorsque nous les pratiquons comme il faut, que nous pourrions, que nous pratiquerions toutes les autres ensemble. Alors c'est ça qui est la bonne nouvelle, dans notre enseignement. Le un qui contient le tout et le tout qui se manifeste dans dans chaque partie. Vous êtes soulagé, vous n'avez plus à apprendre les huit. Alors, nous avions choisi le, d'accord, qui est l'une des huit pratiques et qui est aussi l'une des huit branches de ce chemin octuple, du noble chemin octuple. Et en pratiquant donc le right mindfulness. Si on croit à cette histoire du un dans le tout, en le pratiquant, qu'on pourrait pratiquer les autres aussi. Et lorsque nous... Wow, ce silence est vraiment inquiétant. Est-ce que vous êtes avec moi ou... Alors donc c'est l'attention juste. On a arrêté là. L'année dernière, on s'est dit pour pouvoir pratiquer ces huit en passant par l'attention juste qu'on allait pratiquer avec un enseignement qui s'appelle l'Anapanasati. Et l'Anapani Sutra, c'est sati, c'est pleine conscience. Ana, pana, c'est in-out, inspire, expire. Et donc, c'est là l'enseignement de la pleine conscience, de l'inspiration et de l'expiration. Et ça s'appelle donc l'enseignement sur l'attention de la respiration. L'Anapanasati Sutra enseigne 16 respirations. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire une courte inspiration. Je sais que mon inspiration est courte. J'expire une courte expiration et je sais que mon expiration est courte. Alors donc, on a 16 respirations qui sont divisées en 4 groupes. Et les quatre groupes, comme par hasard, sont le corps, les sensations, perception, émotion et l'esprit. 1, 2, 3, 4. Ces quatre groupes de 16 respirations sont aussi les quatre fondements de la pleine conscience. Et les quatre fondements de la pleine conscience ont fait l'objet de notre apprentissage de cette année. Et le sutra que nous avons étudié ensemble cette année, c'est le Satipatthana. Patthana, ce sont les établissements, les fondements, la fondation. Sati, c'est la pleine conscience. C'est ça qu'on a fait. Qui était là? Est-ce que j'étais tout seul pour faire ça? S'il vous plaît, confirmez que c'est ça qu'on a fait. Merci. Donc, cette année, nous avons étudié ensemble les quatre fondements de l'attention et comme nous l'ont témoigné nos amis qui ont pratiqué diligemment pendant toute l'année, nous avons eu 8 journées de pleine conscience, 2 retraites, 42 semaines. Et dans chaque semaine, nous avions un lundi et un mercredi. Et nous avons étudié ensemble 20 exercices pour pouvoir faire le tour de ce sutra. Et aujourd'hui, on est rendu au 19e et au 20e. Avez-vous des questions? Ça veut dire ça. Transformation et guérison, c'était la conclusion de nos 3 ans d'études. Les 3 ans d'études qui nous auraient permis, premièrement, de prendre conscience de notre état, de prendre conscience de notre état de souffrance, prendre conscience de notre état de non-satisfaction, de pouvoir nous arrêter et nous calmer afin de pouvoir bien les comprendre et bien les discerner, afin de pouvoir comprendre qu'il y a des moyens et des pratiques qui nous permettent de pouvoir s'en sortir. Et qu'une fois qu'on a intégré et qu'on a amené ces pratiques dans notre vie, que nous pouvons effectuer ce travail de transformation et de guérison. Transformer quoi? Transformer la souffrance en bonheur. Guérir de quoi? Guérir de nos maux qui nous tiennent attachés afin de pouvoir nous libérer. Nous libérer de toutes nos afflictions et souffrances et d'atteindre cet état que nous appelons le nirvana. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme réponse? Qu'est-ce que je devrais répondre? Si vous demandez à quelqu'un qui ne veut pas se présenter dans cette salle, qui ne veut pas que je la présente, elle vous dira tout de suite. Je ne vais pas la mentionner, je vais la regarder. Connaissez-vous l'émission « Qu'attendez-vous pour être heureux ?» Pardon ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Okay. Qu'attendez-vous pour être heureux ? Heureuse. Alors la réponse peut être tout de suite. Et en fait, c'était une réponse très sérieuse et c'est une très bonne réponse. Parce que c'est toujours possible tout de suite. Et c'est dans notre pratique que de revenir à l'instant présent. Et dans l'instant, dans le présent, il n'y a rien qui peut se passer. Pourquoi est-ce qu'on est dans ces sensations de mal-être? Ou pourquoi est-ce que nous souffrons? C'est toujours parce que nous sommes pris dans le passé, avec les regrets et les remords, ou nous avons peur pour le futur. Où nous sommes pris dans nos sensations, émotions de l'instant. Mais si nous savons comment pratiquer le miracle de l'instant présent, le bonheur s'y trouve. Tout ce que nous recherchons est déjà là. Et nous n'avons plus rien à rechercher ailleurs que dans l'instant, et si nous pouvons rester dans l'instant, c'est tout, nous pourrons y retrouver, y avoir tout ce dont nous pouvons avoir besoin ou que nous voulons espérer ou rechercher. Alors lorsque nous pratiquons la pratique des 14 respirations ou des 4 établissements à la pleine conscience, nous nous pratiquons à arrêter. J'inspire, je sais que j'inspire. C'est une pratique d'arrêt. Et la pratique d'arrêt a un nom qui s'appelle Samatha. S pour stop. S pour silence. S pour sérénité. Stabilité. Pas encore Samatha, non. Dans l'autre partie, oui. Mais on n'est pas encore rendu là. Alors donc, Samatha, arrêt, retour à l'instant, c'est toute notre pratique. Parce que nous savons qu'il y a un seul instant, un seul moment qui compte dans notre vie. Ce n'est pas hier, c'est déjà passé. Ce n'est pas demain non plus, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver aujourd'hui encore. Peut-être que demain n'existera pas. Il y a seulement un instant, c'est cet instant présent. Et c'est cela notre pratique, c'est l'arrêt afin de pouvoir retourner à l'instant en silence, serein, stable, ici et maintenant. Il y a un sutra, il y a un enseignement du Bouddha qui parle de cette pratique et ça s'appelle l'enseignement sur la meilleure façon de vivre seul. Vivre seul, c'est-à-dire vivre sans la présence de ces ghosts, de ces fantômes qui sont toujours en train d'essayer de nous tirer vers le futur, ou bien qui nous ramènent dans le passé, ou qui nous entraînent dans des lieux que nous ne voulons pas, juste pour nous éloigner de cet instant présent, de l'ici et maintenant, de cette place que, où nous savons, lorsque nous pratiquons, que c'est la place où tout est possible, c'est la place où rien ne peut nous arriver, c'est la place où on est en parfaite sécurité, et c'est la place où le bonheur et le nirvana, ainsi que tous les êtres, sont présents dans cette place. Mon maître dit que c'est une adresse, c'est un zip code. Et lorsqu'on retourne à cette adresse, on retrouve tous les grands êtres de ce monde. On retrouve le Seigneur Jésus, on retrouve le Bouddha et tous ses maîtres. Ils résident dans la même adresse. Et cette adresse, c'est l'ici et maintenant. Et c'est une adresse qui nous est aussi donnée. Et c'est une adresse aussi à laquelle nous pouvons arriver à chaque instant, ici et maintenant. Alors toute notre pratique consiste à nous donner cette capacité de pouvoir être dans chaque instant, dans l'instant. Ça m'amène à vous parler des trois sauts du Dharma. Les trois sauts. En fait, ce ne sont pas les trois sauts du Dharma, ce sont les trois sauts du village des pruniers. Un sceau, c'est un sceau d'authenticité. Alors, quand vous achetez une bonne bouteille, il y a peut-être un sceau qui dit appellation contrôlée, Bordeaux, ou quelque chose du genre. Et les enseignements, aussi, il y en a plein. Et afin de pouvoir identifier c'est quoi les enseignements du Bouddha, le Bouddha nous a donné trois sceaux qui s'appellent les trois sceaux du Dharma. Et Thai Nyakhan aussi a trois sceaux pour pouvoir identifier, certifier son enseignement. Et j'appelle ça les trois sceaux du village des pruniers. C'est quoi le premier sceau? Ah, ça, c'est les trois sceaux du Dharma. Mais là, je parle des trois sceaux du village des premiers. Donc, les trois sceaux, je viens de parler du premier. C'est la pratique du moment présent. Et la pratique de l'instant présent, est-ce que vous êtes d'accord que c'est important? Et c'est une des bases, c'est un des sceaux de toute notre pratique. Si nous pratiquons selon l'enseignement de Tenzin Han, ou bien afin de pouvoir nous certifier ou bien nous rappeler que c'est un enseignement de Tenzin Han, on se pose la question, est-ce que ça a rapport avec l'instant présent? Et l'enseignement de Thay, tous les enseignements de Thay, toute ma pratique se résume à ce premier, ou bien je ne pratiquerai aucun enseignement ou aucune pratique si ça ne m'aide pas à, ou bien si ça ne porte pas le premier sceau, le sceau de l'instant. Et nous pratiquons à chaque instant, nous pratiquons dans l'instant, et nous pratiquons seulement pour cet instant-là. C'est clair? Un exemple. Nous pouvons pratiquer en méditation. Et nous nous disons, je veux pratiquer pour devenir une meilleure personne. On vient de quitter l'instant. Ou bien non, on n'a pas encore quitté l'instant. C'est parfait, je veux pratiquer pour être une meilleure personne, on est dans l'instant. Et puis là, on se met à imaginer comment cette meilleure personne va être. Et on se perd dans nos pensées, on se perd dans cette image. Et on vient de quitter l'instant présent. Et il faut se ramener à l'instant pour dire, ok, cet instant-là, futur, va arriver. Mais si je veux qu'il arrive de cette façon-là, il faut que je m'occupe de cet instant. Et on retourne à la pratique. Et c'est toujours j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Tout ce qui est passé est déjà passé. Tout ce qui va arriver va peut-être arriver. On n'est pas sûr. Mais si on se met à y penser, ça va arriver. Et c'est ça qui est le problème. C'est qu'on passe beaucoup trop de temps à penser à un futur qu'on redoute. Et en le faisant, on se crée ce futur qu'on n'aime pas et qu'on redoute. Et lorsqu'on arrive dans ce futur-là, et que ça devient le présent, on n'en veut plus. Et on se dit, pourquoi c'est arrivé? Et on regarde notre pratique et on s'est aperçu qu'on a cultivé, qu'on a fabriqué le présent dans lequel on se ramasse. Le présent dans lequel on se ramasse est notre création. Et si nous regardons notre vie de la semaine passée, notre vie du mois passé, notre vie de l'année qui vient de passer, on s'est aperçu que ce qui arrive n'est qu'un résultat normal et logique de ce qui existe aujourd'hui. Alors donc, la pratique de l'instant, à chaque instant, avec la pratique de l'arrêt pour pouvoir être là, entièrement là-dedans. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Ou bien, pour répondre à votre question, madame, si nous pouvons rester dans cet instant, si nous pouvons y demeurer, si nous pouvons le faire durer, si nous pouvons l'étendre, si nous pouvons en vivre plusieurs par jour, nous venons d'avoir une vie qui est mieux remplie, qui est remplie d'instants où nous sommes présents, qui est remplie d'instants où nous sommes en vie, qui est rempli d'instants où nous sommes. Je viens de vous parler, en fait, de la deuxième, du deuxième sceau. Un instant qui, ou bien une qualité d'instant présent qui se répète, un instant présent qui se prolonge. Nous appelons ça la diligence. Et c'est encore une autre des huit pratique, diligence ou est-ce que c'est un bon mot français? Alors donc diligence, c'est aussi la pratique de l'effort juste. Nous ne passons pas 10 heures par jour sur notre coussin de méditation. Nous ne pratiquons pas la tête sur le plancher. Nous marchons les pieds sur terre et nous faisons de chaque pas un pas de bonheur. Nous arrivons à l'adresse à chaque pas. Et chaque pas nous permet de pouvoir retourner chez nous et de pouvoir manifester le royaume des dieux à chaque pas. Ici, tout de suite, maintenant. Alors nous n'arrêtons jamais de pratiquer. Nous pratiquons continuellement. Nous pratiquons depuis l'instant où nous nous levons le matin jusqu'à l'instant où nous nous... comment ça s'appelle? Nous nous donnons aux mains, bras de Morphée et que nous partons dans des beaux rêves. En fait, lorsque nous pratiquons l'instant présent et la diligence, notre sommeil est très léger et on dort très bien, sans rêve, ni cauchemar. On dort légèrement, on dort très bien pendant 5 heures, 6 heures et on se lève complètement revigorifié. Alors la théorie de 8 heures par jour, ce n'est pas vrai. On peut dormir 4 ou 5 heures, bien dormir et on est encore en meilleure forme que dormir 8 heures. Lorsqu'on dort mal. Alors la diligence, pratiquée à chaque instant. C'est quoi le troisième? Non, ça c'est trop difficile. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Lorsque je dis, lorsque vous récitez, j'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Qu'est-ce que vous pratiquez? Et c'est essentiel. Et c'est primordial. Parce que s'il n'y a pas de joie dans la pratique, ce n'est plus une pratique de Tignikan. Parce que s'il n'y a pas de joie, on ne veut plus être dans l'instant présent. On va se mettre à rêver dans le futur. Et c'est ça qui nous arrive, c'est qu'on n'est pas content de l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on veut s'en aller ailleurs. Mais si on pratique et on reconnaît que cet instant présent est joyeux, nous allons vouloir y rester. Et ça va être facile de vouloir y retourner. Et lorsque nous avons appris les 16 respirations, la joie est la 4e respiration. Le pratiquant inspire et manifeste sa joie. Alors le pratiquant de méditation a le pouvoir de pouvoir générer la joie en elle, en lui, par sa respiration consciente. Les trois sceaux du village des prunes, la diligence. La diligence, ce matin, Monique nous a parlé de l'énergie. Il y a 5 énergies ou 5 pouvoirs qui nous permettent de pouvoir pratiquer cet enseignement et réaliser ces 3 sauts, ces 3 résultats et pratiquer selon ces 3. La première, il y a 5 énergies. Et la première énergie, c'est la foi. La foi que en quoi vous croyez? Croyez-vous que vous pouvez faire ça? Retourner à l'instant avec votre respiration. Croyez-vous que vous pouvez manifester la joie, retrouver la joie en vous à chaque instant? Et pensez-vous pouvoir le faire plusieurs fois dans une journée? Et de cette foi-là que je parle. La foi que nous avons tous la capacité de pouvoir le faire, de pouvoir le réaliser et de pouvoir le réussir. De pouvoir aussi être joyeux et heureux. D'avoir la foi que ça existe et d'avoir la foi que nous en sommes capables. Parce que si nous ne n'y croyons pas, si nous ne croyons pas que nous y avons droit, on est mort comme pratiquant. On n'a plus l'énergie qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Une fois qu'on a la foi, il faut le faire. On sait que c'est, on y croit, on sait qu'on peut, mais si on ne le fait pas, il y a peu de choses qui vont arriver. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver la formule magique ou la pilule qui pourrait nous permettre de les réaliser sans rien faire. Je n'ai pas encore trouvé. Je vais encore essayer. Et donc, il faut le faire. Alors, lorsque je parle en anglais, j'appelle ça Nike. Leur motto, le motto de Nike, c'est quoi? Just do it. C'est quoi l'équivalent français? C'est la même chose que diligence. C'est qu'il faut le faire. Et la diligence, il y a une autre définition à la diligence juste. C'est le minimum d'effort, mais de façon continue. Ça va me revenir, mais c'est moderate continuous effort. Là, vous souvenez-vous, je vous avais mentionné qu'on ne marche pas sur la tête, qu'on ne s'assied pas en méditation 10 heures, mais qu'on pratique continuellement sans se forcer. Alors, c'est une pratique continue, sans effort et joyeuse. Et on revient encore aux trois caractéristiques pour la diligence. La troisième énergie, c'est l'énergie de la pleine conscience qui amène à la concentration. Concentration qui nous permet de pouvoir comprendre. Cette compréhension qui provient de la concentration. La concentration qui n'est possible ou qui est alimentée ou qui est renforcée par notre pratique de pleine conscience. La pratique de pleine conscience qui consiste à s'arrêter, à retourner à l'instant présent. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de pouvoir être là et de pouvoir être en contact. D'être en contact avec tout ce qui est en train de se passer sans se laisser entraîner. Être dans l'instant présent afin d'être au courant, afin d'être conscient avec tout ce qui est en train de se passer dans l'instant, en nous et autour de nous. C'est ça la pratique de la pleine conscience. Et c'est ça que nous avons appris durant toute cette année et toutes les années précédentes et toutes les années à venir. La pleine conscience, cette capacité, cette énergie que nous avons pour pouvoir demeurer dans l'instant, complètement conscient et en contact avec tout ce qui est en train de se passer, sans se laisser entraîner, sans juger, sans réagir, afin de pouvoir avoir la capacité de se concentrer, pour examiner ce qui est en train de se passer et de comprendre. Et une fois qu'on a compris, ça s'appelle s'éveiller. Et c'est cela la transformation et la guérison. La transformation qui se passe par la compréhension qui fait éclater l'ignorance. Et c'est cela, the nugget, the jewel, la crème de l'enseignement, la libération. Surfer par-dessus les vagues de la souffrance, sans se mouiller les pieds, sans se laisser engloutir, sans se laisser entraîner. Être là, imperturbable, et comprendre. Comprendre pour pouvoir aimer. Et l'amour, selon l'enseignement du bouddhisme, est une conséquence de cette compréhension, de cet éveil. De la compréhension que la souffrance est et que le monde est en train de souffrir. Comprendre les causes et les racines de la souffrance ne peut faire autrement que faire naître la compassion dans le Bouddha, dans les bodhisattvas et dans les pratiquants. Et lorsqu'ils sont animés par cette compassion, ils ne peuvent pas ne pas agir. Agir pour pouvoir toucher, transformer et guérir. Dans la demi-heure qui nous reste, je pense que je vais... Non, on n'a pas besoin de prendre de questions parce qu'on aura le temps de faire des questions après. Mais je voudrais prendre l'occasion pour vous parler d'alimentation en pleine conscience. Alors je vais prendre les 15 dernières minutes pour l'alimentation. Le projecteur va me permettre de pouvoir vous montrer des choses sans avoir à les écrire. En fait, c'est une carte qui illustre un peu le programme d'enseignement que nous avions eu cette année. On a commencé à parler du 8 chemins octuples. Nous avions parlé des 5 obstacles à la pratique. Et les 5 obstacles à la pratique sont, nous l'avons aussi étudié ensemble, sont aussi les causes de notre condition de mal-être. L'attachement, le désir, l'aversion, le doute. Et tous ces obstacles-là sont les choses qui nous font ne pas nous sentir à notre meilleur, qui nous font souffrir. Et aussi, ceux qui nous empêchent ou bien ceux qui sont des obstacles à notre pratique des 4 établissements à la pleine conscience. Et les 4 établissements à la pleine conscience, ce sont les 4 groupes que nous avions mentionnés, le corps, les sensations, l'esprit et les objets de l'esprit. Les objets de l'esprit qui portent le nom de formation mentale. Les principes de la pratique que nous avons pour la pratique. Et les 20 méthodes de pratique que nous avons fait ensemble durant l'année. Donc, quand nous avions parlé de la respiration consciente, nous avons commencé avec le corps, l'observation du corps dans le corps. Nous avons pratiqué la respiration consciente. Consciente de la respiration, j'inspire. Consciente de mon inspiration, j'expire. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Le deuxième exercice, c'est de suivre la respiration tout au long de l'inspiration et tout au long de l'expiration. Nous ne faisons pas juste, ok, j'inspire, puis là, oublier qu'on est en train d'inspirer et y revenir, mais garder notre attention tout au long de notre inspiration et tout au long de notre expiration, afin de pouvoir la quantifier. Cette respiration est longue, cette respiration est courte. Et ça s'appelle suivre notre respiration, garder notre attention avec notre respiration tout au long de l'inspiration et tout au long de l'expiration. Lorsque nous pratiquons les deux, le troisième apparaît tout de suite, Et nous nous apercevons que, en pratiquant juste l'attention à la respiration, nous venons de manifester le premier miracle de la pleine conscience, qui est l'unicité du corps et de l'esprit. Notre esprit est souvent pris ailleurs, dans nos pensées, dans nos fantaisies, dans nos rêves, dans nos regrets, dans toutes ces choses-là. Et avec la pratique, ça le ramène au corps. Pourquoi? Parce que l'esprit, l'attention, a toujours besoin d'être occupé avec quelque chose. Et lorsque nous pratiquons la respiration consciente, nous lui donnons la respiration comme objet d'attention, et là, il mord avec, puis il est pris. Et puis, il ne laisse plus. Non, pas vrai. Il va s'en aller ailleurs. Parce que ça devient plate. Il s'ennuie. Et il veut chercher autre chose. Donc, on réalise le premier miracle, l'unicité du corps et de l'esprit. Et on s'aperçoit aussi de quelque chose de merveilleux. Que juste en retournant à notre respiration, on se calme. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, ou bien si quelqu'un vous l'a dit, « Hey, calme-toi, hey, oh, les nerfs !» Alors, on peut changer par « respire » et ça calme. Et si vous avez déjà pratiqué cet enseignement ou cette pratique de respiration, vous savez que c'est quelque chose qui est complètement automatique. Aussitôt qu'on revient à notre respiration, qu'on inspire, qu'on expire, on se calme. Ces quatre premières respirations peuvent nous sauver la vie. Toutes les conditions de stress dont nous nous soumettons et qui nous causent toutes sortes de maladies et de problèmes, avec ces quatre pratiques, nous pouvons complètement soulager, réduire, contrôler, manage, gérer toutes les conditions de notre stress. Une vie sans stress est une vie un peu plus joyeuse, ou bien la joie est plus facile à être lorsqu'on est libéré de ces conditions de stress. Et parce que l'esprit ne se contente pas d'être juste avec la respiration, parce que, oh, c'est niaiseux, on l'a fait déjà. Oh, as-tu d'autres choses à me raconter? C'est plate. Alors donc, il faut lui donner d'autres choses. Et donc, nous lui donnons le corps comme pratique pour pouvoir exciter, pour pouvoir maintenir notre esprit attentif. On lui donne notre corps pour qu'il joue avec. Je n'ai rien pensé. Alors, on s'observe. Le pratiquant est assis et il sait qu'il est assis. Le pratiquant est en train de marcher et il sait qu'il est en train de marcher. Le pratiquant est allongé et il sait qu'il est allongé. Et c'est la pleine conscience des positions du corps. La pleine conscience des actions du corps. Je tiens un crayon, je sais que je suis en train de tenir un crayon. Ben, c'est pas vrai parce que ce matin, j'ai dû monter l'escalier 4 fois. J'aurais dit, hop, j'ai oublié ma clé, je remonte. J'aurais dit, hop. Pourquoi est-ce que j'étais monté donc? Ça ne vous est jamais arrivé? Où sont mes lunettes? Alors donc, les actions, et ensuite de ça, les parties du corps. Et quand nous pratiquons les parties du corps, mon maître a une pratique qui s'appelle la méditation de l'observation du petit orteil. C'est quand la dernière fois que vous avez remarqué votre petit orteil? Ok, je vous souhaite qu'il reste tranquille longtemps pour qu'on n'en ait pas à s'en occuper. Mais il pourrait arriver que soudain il ne se porte pas très bien, ou bien qu'une des cellules de ce petit orteil décide de faire la grève. Ça prend pas grand-chose, deux, trois étudiants fous et ça vire une société. Alors, le petit orteil, une cellule qui va mal. Et tout d'un coup, le monde vient de s'effondrer. Une cellule cancéreuse et tout le corps va devoir se monopoliser pour pouvoir. Non, ce n'est pas ça. C'est que tout d'un coup, toute notre attention, qui était toute perdue ailleurs, devra le regarder. Et la pratique que Thay nous suggère ou nous enseigne de faire, c'est de faire cette pratique des parties du corps et de regarder chacune des parties du corps et de constater l'état de chaque partie de notre corps. Et c'est peut-être ça que nous aurions dû faire comme société aussi. C'est de regarder chaque élément de la société afin de s'assurer que chaque partie de notre corps et de notre société vont bien. Et ne pas attendre à ce qu'il aille mal et qu'il se mette à crier. Alors la pratique des parties du corps est aussi une pratique de relaxation que nous aurons la chance de faire aujourd'hui, qui s'appelle le body scan. Retourner à l'intérieur de notre corps, rétablir connexion et contact et compréhension avec notre corps, envoyer notre amour, rétablir notre amour avec chaque partie de notre corps. Parce que lorsque nous avons étudié le corps, j'avais fait une confession. C'est que j'ai été un très mauvais pratiquant et que je me suis trop attardé avec ces choses-là. Et c'est beaucoup plus intéressant de parler de libération et de voler sur les nuages et tout ça. Mais il n'y a rien de ça qui peut se passer. La concentration, la pratique de méditation, la libération ne peut pas se passer à l'extérieur du corps. C'est seulement par le corps, dans le corps et en. Le troisième mot que j'ai oublié, mais le corps, c'est le moyen, le véhicule et le seul qui va nous permettre de pouvoir faire tout ce dont nous voulons, ce que nous voulons faire. Et le problème que nous avons, le problème que j'avais, c'est que j'ai demandé à mon corps de faire un tas de choses que mon esprit voulait faire, réaliser, et j'ai abusé de mon corps à lui faire faire des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. J'avais pris l'exemple d'un monarque, d'un dictateur aux ambitions illimitées qui exige que le corps soit toujours là pour répondre à tous ses caprices. Et mon corps m'a suivi et a obéi à tout ce que je lui ai demandé de faire. Il m'a parlé, il a crié, il a pleuré. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai étouffé. Je me suis médicamenté pour ne pas l'écouter et l'entendre. Et aujourd'hui encore, dans mon sac, quand je me promène, j'ai encore des Advil. C'est exactement le contraire de ce que je suis en train de vouloir pratiquer. Rétablir les communications avec ton corps. Écoute-le. Mais quand il y a un Dhammatalk à donner et que j'ai un début de rhume, qu'est-ce que je fais? Je prends des encéphalites, whatever, pour ne plus ressentir pas de fièvre, rien du tout, puis là j'y vais. Alors donc, la pratique, retourner dans son corps, retourner avec le corps pour pouvoir l'écouter, Et si on peut se permettre de faire cet exercice-là, on calme notre corps, on en prend soin. Et lorsque nous allons faire la relaxation totale cet après-midi, vous allez adorer l'exercice. Et c'est quelque chose que je pense que nous devrions nous accorder et nous donner chaque soir avant de nous coucher. Lorsque nous pratiquons les parties du corps, nous allons aussi apprendre beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses sur notre histoire. Lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était plus jeune, nous avons pu avoir été blessés. Nous avons peut-être été agressés. Nous l'avons peut-être oublié. Mais les traces restent dans notre corps. Et je crois fermement que beaucoup de nos comportements et attitudes, beaucoup de nos blessures, beaucoup de nos maladies sont déjà là. Et à moins d'y retourner et de les regarder, de les embrasser, de les nourrir, de faire la paix avec, ces plaies vont continuer d'être là et vont finir par devoir se manifester de façon brutale. Un cancer ne survient pas du jour au lendemain. Un cancer, c'est peut-être la répétition continue d'une tension quelque part. Et chaque chose qui nous parvient de l'extérieur est reçue dans notre corps et se manifeste par une tension quelque part. Et lorsque la tension revient toujours, ça se manifeste par des symptômes comme un cancer. Et je ne sais pas si ça a été prouvé scientifiquement ou non, mais il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé à lire Louise Hay, c'est un peu sa théorie. Dites-moi où vous souffrez, je vais vous raconter l'histoire de votre vie. Pourquoi attendre? Avec la pratique, on peut retourner avec chaque partie de notre corps afin de pouvoir la soulager dès maintenant, avant qu'elle devienne malade, avant qu'elle se manifeste. Et c'est pour ça que la pratique du corps est une pratique extrêmement importante et aussi extrêmement puissante. Et que nous n'avons pas besoin d'aller dans toutes les autres choses parce que si nous pouvons calmer notre corps, le reste suit. Parce que nous croyons à l'unicité du corps et de l'esprit. Et nous savons aussi que tout ce qui se passe dans l'esprit a des répercussions et se manifeste dans le corps. Et que c'est beaucoup plus facile de traiter le corps que de traiter l'esprit. Parce que l'esprit, you cannot grasp it. Il est trop. Essayez de prendre une poignée d'air. On ne peut pas. Notre corps va nous suivre, il est toujours là. Alors c'est retourner au corps, traiter le corps, pratiquer avec le corps pour pouvoir guérir l'esprit. Alors c'est la pratique contraire que j'ai faite cette année avec ce sutra et c'est la première fois que je commence à le faire. Alors je suis à mes débuts et en bégaiement. J'ai ramené la pratique des 10 mouvements à la pleine conscience. Je l'ai trouvé niaiseux. Je préfère mieux écouter Thay parler de bouddhisme que de faire ces mouvements. Mais je m'aperçois que un bouddhisme qui est dans l'esprit et qui n'est pas appliqué sur notre propre corps pour notre propre survie, ce n'est pas du bouddhisme. Parce que le bouddhisme n'est bouddhiste que lorsqu'il est appliqué, applicable à notre propre condition aujourd'hui, maintenant. Et notre condition actuelle aujourd'hui, maintenant, c'est notre corps, avec tout ce que nous lui avons infligé depuis que nous sommes nés. Alors cette année, c'est la... En fait, le programme que je viens de vous montrer est un programme de 5 ans. Et à chaque 5 ans, nous retournons avec le même cycle. Et c'est la 3e fois que j'enseigne ce sutra. Mais c'est la première fois où j'attache autant d'importance sur le corps. En fait, cette année, l'important pour moi, c'était les obstacles. Qu'est-ce qui sont les empêchements pour notre pratique? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir bien pratiquer? Et comment cette pratique peut nous aider à amoindrir, améliorer ces conditions qui nous empêchent de pouvoir bien pratiquer? Et parce que je me suis attardé à cela, je les vois partout. Combien de 4x4 avez-vous vu ce matin en arrivant? Aucune, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez entendu Micheline parler de 4x4, comptez-les ce soir chez vous. Puis tout d'un coup, vous verrez que vous avez vu 54x4 sur le chemin du retour, puis vous n'en avez vu aucune en venant. Pardon? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, avec quoi je vais donc pratiquer? Ok, je pense que je vais pratiquer avec une voiture rouge. Et tout d'un coup, toutes les voitures autour de moi sont devenues rouges. Alors, c'était une parenthèse pour vous parler de la pratique des cloches de pleine conscience. Nous pratiquons l'arrêt. Et comme notre esprit est souvent pris ailleurs, nous voulons nous donner des moyens pour pouvoir revenir à l'instant. Et lorsque nous sommes dans un monastère ou lorsque nous sommes dans un campus à Vancouver, des fois, il y a une petite cloche qui sonne. Et on s'arrête, et on respire, et on sourit. On entend un son de cloche, on regarde autour, il n'y a personne, on continue. Mais avec la pratique, on s'arrête et on génère la joie, et on se calme. Aussitôt qu'on entend un son de cloche, on dit « yes ». Et à force de pratiquer, notre joie et notre calme et les effets de cette pratique augmentent. Mais à un moment donné, la pratique devient dull. Et il nous faut inventer d'autres choses. Alors, la cloche, au début, on la recherche, puis à un moment donné, on n'entend plus les cloches. Alors, il faut s'inventer des choses pour pouvoir arrêter. Et c'est dans ma pratique, c'est toujours de me donner des choses. Et c'est drôle, chaque fois que je me donne quelque chose, ça revient très souvent. Alors je vais vous suggérer de compter les 4x4 en rentrant ce soir, juste pour voir de quoi ça a l'air. Et lorsque nous pratiquons le corps, nous pouvons aussi réaliser tout ce que nous pouvons réaliser sans aller dans les autres. Les choses les plus importantes, c'est la permanence et l'interdépendance. Alors, ce sont les deux sauts du Dharma, les deux des trois sauts du Dharma. La permanence. La permanence comme une réalisation. La permanence comme une sagesse. La permanence comme une vérité absolue, pas juste une compréhension intellectuelle. Très facile de le faire avec le corps. Vous regardez-vous le matin dans votre miroir? Vous lui posez-vous la question, suis-je la plus belle? J'ai posé la question, j'ai pas aimé la réponse. Oui, c'est le nirvana. Et juste avec la vérité de l'impermanence, nous pouvons avoir beaucoup de réalisations et de moyens qui nous permettent de pouvoir mieux pratiquer. Et avec cette réalisation ou cette réalité ou cette the insight of impermanence. C'est quoi insight en français? C'est un éveil, c'est une réalisation. Et lorsqu'on possède cette réalité de l'impermanence, on est en train de réaliser le nirvana aussi. Et on vient de se libérer de beaucoup de petits problèmes. Les personnes que nous détestons, ou les personnes que nous prenons ou que nous considérons comme nos pires ennemis, si nous pouvons nous regarder avec les yeux de l'impermanence et les regarder avec les yeux de l'impermanence, ça peut dissoudre beaucoup de nœuds. Une pratique que Thay nous a enseignée lorsque nous sommes fâchés avec quelqu'un, de la regarder et de se demander où seras-tu dans 300 ans d'ici? Et où serai-je dans 300 ans d'ici? Ou bien l'imaginer. Imaginez qu'elle ne soit plus là. Tout d'un coup, les vidanges ne sont pas très importantes. T'as pas encore sorti les vidanges? Oui, mes chéris, dans 50 ans, ça n'existera plus. Non, ce n'est pas comme ça, mais... Alors, ce genre de visions qui font que les bodhisattvas sont capables de voguer par-dessus les vagues. Parce qu'ils ne se laissent pas accrocher. Parce que l'eau qui leur tombe ne les touche pas. Parce qu'ils savent que la vie est impermanente. Parce qu'ils savent que tout est impermanent. Et parce qu'ils savent aussi que les pires conditions d'aujourd'hui ne peuvent pas durer. Il y a beaucoup de souffrances aujourd'hui. Oui. Mais ces souffrances sont aussi impermanentes. Mais elles vont finir par disparaître, par se transformer. Comment est-ce qu'elles se transforment dans l'instant? Avec notre pleine présence et notre pleine conscience. Alors donc, c'est un... En tout cas, c'était un cheminement très attrayant, instructif, excitant. Et on va le revoir dans 5 ans. Alors, dans 5 ans d'ici, si l'impermanence le permet, on pourra le réétudier ensemble. De quoi est-ce que je devrais parler pour conclure en 2 minutes? Je voudrais prendre 2 minutes pour vous parler de l'alimentation en pleine conscience. C'est aussi une pratique d'arrêt. Lorsque nous allons manger ensemble, nous voulons apporter notre pleine présence à l'ici et maintenant. Prendre conscience que nous sommes encore en vie et que c'est un miracle de pouvoir être en vie, de pouvoir marcher, de pouvoir se servir et se réjouir de ça. Manifester la joie juste par l'instant présent et reconnaître que les conditions présentes que nous avons ici et maintenant is more than enough to make us fully happy. Que nous n'avons besoin de rien d'autre pour être entièrement, parfaitement satisfait, heureux, content, ici et maintenant. Et qu'il n'y a rien d'autre à espérer, rechercher ou vouloir. Et que tout est là et que nous avons tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Et bien plus encore, pour pouvoir être pleinement heureux et satisfait. Se réjouir de cela, assis, j'inspire, j'expire. Pouvoir inspirer et expirer. Réaliser le miracle de la vie. Reconnaître que nous sommes encore vivants et que c'est une bénédiction de pouvoir respirer est déjà pleinement suffisant. Avoir des pieds qui nous permettent encore de pouvoir marcher pour nous servir. Avoir des mains qui nous permettent encore de pouvoir prendre des aliments. Avoir des yeux qui nous permettent encore de pouvoir discerner toutes les couleurs de la nourriture qu'il y a sur notre plat. Avoir un nez qui nous permet encore de pouvoir savourer la bonne odeur, la bonne fragrance de cette nourriture. Et lorsque nous pratiquons l'alimentation en pleine conscience, nous ne faisons pas juste nous remplir de nourriture, mais nous nous alimentons et nous alimentons tous nos six sens. Par les yeux, nous nous alimentons et nous satisfaisons notre désir et notre soif ou notre faim pour la beauté. Et de la même façon, nous pouvons alimenter tous les autres sens que nous mettons toutes en participation lorsque nous pratiquons l'alimentation en pleine conscience. Nous alimentons aussi notre cœur et notre amour. Cette nourriture est une offrande de l'univers tout entier, du ciel, de la terre et de beaucoup de travail de nombreuses espèces. Regardez n'importe quel morceau de nourriture sur votre assiette et vous pourrez réaliser que chacune de ces portions d'aliments renferme tout le cosmos. Une tomate toute rouge, brillante, qui vous sourit, est un ambassadeur de l'univers. Parce que ça a pris la pluie, le soleil, le laboureur, etc. La personne immigrante qui l'a cueilli, qui l'a mis dans un cassot qui est rentré dans une caisse qui est rentrée dans un cargo, qui, etc. Et puis, c'est très facile. Ou bien c'est impossible de voir toutes les conditions qui ont amené cette simple carotte ou cette simple tomate à atterrir sur notre plat. Et lorsque nous nous disons que l'univers tout entier a contribué ensemble pour pouvoir réaliser cette chose, et cette chose-là qui est devant nous est aussi un maître de l'amour. Parce que la tomate sait qu'elle est arrivée à sa destination finale et qu'elle va mourir. Elle va mourir d'une mort, je ne sais pas trop quel mot utiliser, parce que aussitôt qu'il y a un mot qui sort, il y a le contraire qui apparaît pour moi aussi. Alors j'allais utiliser le mot effroyable, parce que je me mets dans ma peau et je me mets à la place de la tomate. Et là, je m'aperçois qu'il y a une espèce de gros méchant qui va me percer avec sa fourchette. Puis qui va me mettre dans une place qui est pas très odorante, toute mouillée, humide, plein de microbes, et puis qui va se mettre à me mordre, et puis à me mâcher. Et puis parce qu'il pratique la pleine conscience, il ne va pas se contenter de juste mordre une fois puis avaler. Il va me mâcher pendant 20 fois, parce que c'est ça que le maître vient de lui demander de faire. Et 30 fois. Et puis là, c'est le début of a journey. Merc.
Alors
donc, c'est vraiment une fin effroyable que je lui vois. Mais la tomate, et c'est là que je trouve que c'est un maître d'amour. La tomate sait. Mais est-ce qu'elle se met à crier, à sauter de l'assiette, à s'échapper? Non. Elle continue de sourire. Et elle se donne. Avec plaisir. Parce qu'elle sait qu'elle a passé sa vie pour arriver à cette destination et pour pouvoir servir son destin, qui est celui de nous nourrir. Et elle se donne sans crainte, sans peur, sans regret, entièrement. Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui pouvait m'aimer autant que cela. Et je n'ai jamais été capable d'aimer quelqu'un assez pour pouvoir dire que je peux donner ma vie. Et la tomate le fait. Alors vous voyez, en consommant dans la pleine conscience, il y a plein de leçons, il y a plein d'enseignements et de visions que nous pouvons acquérir. Si nous nous donnons la peine, le temps de nous arrêter pour pouvoir être là, dans la pleine conscience de ce qui est en train de se passer, pour pouvoir être en contact avec ce qui est en nous et autour de nous. Et chaque chose qui est en nous et autour de nous peut nous enseigner la meilleure leçon de vie que nous pouvons. Et selon le sutra de la terre pure, les oiseaux et le vent sont en train d'enseigner le dharma. De la même façon, la tomate et la carotte sur notre assiette sont aussi en train de chanter le dharma. Mais si nous ne sommes pas présents pour pouvoir l'entendre et l'écouter, comment pourrons-nous apprendre? Et donc, la pratique de la pleine conscience, c'est nous mettre dans ces conditions pour pouvoir être constamment à l'écoute et constamment en train d'apprendre. Apprendre de la vie et retourner à cet état de félicité et de grâce que l'instant présent est unique et merveilleux. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Je m'établis dans l'instant présent, cet instant unique et merveilleux. Même pratique dans toutes les occasions de notre vie, si nous pouvons nous ramener à cet instant. Nous sommes en compagnie de tous les grands êtres. Et c'est la place que nous voulons être, tout le temps, à chaque instant. Alors donc, bon appétit. Donc, bon après-midi. On se revoit pour une autre pratique de pleine conscience qui est la pratique de la parole aimante et de l'écoute attentive. Lorsque nous écoutons dans notre habitude ou bien habituellement, on compare tout de suite ce que nous entendons avec ce que nous connaissons déjà et nous faisons des choix. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je n'aime pas ça? Et lorsqu'on aime ça, on le prend. Et lorsqu'on n'aime pas ça, on le rejette. Alors, on est tout de suite pris avec le premier obstacle à la pratique de la pleine conscience, qui est l'attachement, l'aversion et le désir. On aime écouter ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, on veut tout de suite l'écarter. Alors donc, c'est observer comment cette chose-là joue en nous. Et ce n'est pas bien, mauvais, c'est juste le noter. Et en termes techniques, en termes de pratique de pleine conscience, on appelle ça la reconnaissance pure et simple. Ah! Et puis, je suis en train de comparer, je suis juste sans se juger, sans se punir ou se flageller inutilement. juste remarquer comment nous fonctionnons. Et ensuite de ça, lorsque nous parlons, c'est aussi une pratique de pleine conscience. Pleine conscience que nos paroles ont le pouvoir d'amener de la joie et de l'espoir ou le contraire. Et de choisir ce que nous voulons partager, transmettre. J'avais un test de parole. Avant de prononcer une parole, c'est de passer en travers d'un test, me demander la parole que je vais émettre, est-ce qu'elle va aider les autres à comprendre? Est-ce qu'elle va aider la personne qui m'écoute et qui m'entend à être plus heureuse, plus joyeuse, ou bien à sortir de sa souffrance? Et, mais il y avait une série de questions que je me posais, puis là je ne m'en souviens plus, alors vous pouvez vous les inventer, mais c'est une pratique de pleine conscience aussi. Avant de parler, juste couper, juste avant que ça sorte en son, pour évaluer. Et on a une grille d'évaluation qu'on peut aussi passer en travers avant de l'émettre. Donc, bienvenue à cette pratique. Mais avant d'arriver à cette pratique, parce que c'est la dernière session de la série, il y a quelques petits points qui sont très importants et que je voudrais vous demander l'autorisation de mentionner en 5-10 minutes pour pouvoir me satisfaire que j'ai fait ma job aujourd'hui de boucler la série. Et j'ai mis les quatre diligences, les quatre alimentations et la pratique du serpent. La pratique du serpent, je vais commencer avec ça. Nous avons regardé avant midi, ce qui était la pratique du corps. Avec la pratique du corps, ou souvent après la pratique du corps, nous avons étudié la pratique de la pleine conscience et des sensations dans les sensations. Et les sensations sont très importantes parce que ce sont un signal. C'est ce qui nous donne un signal sur ce qui est en train de se passer. Alors, on a des sensations plaisantes, on a des sensations déplaisantes, et on a aussi des sensations qu'on qualifie de neutres. Et les sensations neutres, par notre pratique, nous pouvons pratiquer afin de les reconnaître. Et une fois qu'on a reconnu les sensations neutres, elles redeviennent des sensations plaisantes. Et c'est l'exemple du petit orteil. Le petit orteil qui va bien, on ne s'en occupe pas, il ne nous dérange pas, alors on ne le voit pas. Mais si on s'en aperçoit, si on porte notre attention à notre petit orteil, et qu'on s'aperçoit qu'on va tellement bien parce qu'il va bien, ça devient une sensation agréable. Alors donc, c'est transformer toutes les sensations neutres en sensations agréables. Faire attention aux sensations agréables, parce que lorsque nous pratiquons les obstacles, nous savons qu'une sensation agréable nous attire vers cette chose-là et nous pousse à vouloir le renouveler, renouveler l'expérience de sensations plaisantes. Et c'est un début d'addiction et de dépendance. Alors il faut se méfier des sensations plaisantes ou bien les regarder pour s'assurer que l'objet de notre attraction ou de notre désir ne soit pas quelque chose qui nous enchaîne et qu'on soit pris avec. Alors il y a des exemples de sensations plaisantes qui sont inoffensives ou qui sont juste plainly wholesome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'appât après. Contempler un coucher de soleil, sentir une brise fraîche, contempler une fleur, ce sont toutes des choses qui peuvent être très plaisantes et qui ne causent pas de difficultés d'addiction ou qui ne cachent pas des souffrances futures. Alors une fois, j'ai parlé avec à la maison de pleine conscience sur Saint-Hubert. Et j'avais demandé aux personnes qui étaient là, avez-vous vu la déesse qui est au coin de la rue? Vous souvenez-vous de la déesse? Mais je voulais parler d'une voiture. Et Monique pensait que je parlais d'une belle dame qui passait. Alors, il y a toujours derrière les sensations plaisantes, il peut y avoir des accros, bien des... et c'est le... l'image que Thay nous enseigne, c'est l'image de l'hameçon, de l'our. Alors si on peut voir la vraie nature de ce qui nous attire et le plaisir que ça nous procure, c'est d'être juste sur la pleine conscience pour pouvoir déceler lesquels peuvent être cause de souffrances futures et les éviter. Et de la même façon, les sensations déplaisantes. En général, quand quelque chose nous... on les pousse. Mais dans notre enseignement, ce sont ces choses-là même, les sensations déplaisantes, qui peuvent nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, de ce qui nous révulse et qui nous repousse, et la raison pourquoi. Et une fois qu'on a découvert la raison pourquoi, ça devient une libération. Et ce sont ces symptômes, ce sont ces indices d'inconfort. Alors donc, c'est ça, soyons sur nos gardes lorsque ce sont des sensations plaisantes. Essayons de ne pas fuir trop vite des sensations déplaisantes, parce que ça peut nous ouvrir la porte à beaucoup de compréhension des choses qui nous arrivent. Et essayer de transformer nos sensations neutres en sensations plaisantes pour que ça soit pour nous nourrir de plus de plaisirs que possible, des plaisirs que nous procurent les miracles qui sont toujours disponibles ici et maintenant. Après les sensations, puis sensations, ça fait partie des formations mentales. Et lorsqu'on apprend à pratiquer avec le corps et avec les sensations, on apprend un processus. Premièrement, on cultive notre capacité de pouvoir nous arrêter, de pouvoir nous calmer et de pouvoir identifier. Et une fois qu'on a ces capacités, et en même temps que nous cultivons ces capacités, nous bonifions et nous renforçons aussi notre capacité à être en observation et à nous concentrer. Parce que nous avons appris à le faire avec le corps, avec les sensations. Et là, on est prêt, avec ce processus et avec l'énergie de pleine conscience qu'on a accumulée avec cette pratique, pouvoir nous adresser aux autres formations mentales. Alors, les sensations sont une sorte de formation mentale et il y en a 50 autres formations mentales. Et les formations mentales sont ce que le nom le dit. Le corps, ou bien cet objet, est une formation physique. Et toutes les autres sont des formations mentales. Formation, c'est-à-dire que c'est formé, ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui s'est construit à partir de conditions. Alors, la colère, la haine, le resentment, toutes ces choses-là sont des formations mentales qui se sont formées avec beaucoup de conditions. Alors lorsque quelqu'un dit quelque chose et que ça suscite quelque chose en nous, il faut faire attention, ne pas tout de suite s'en prendre à la personne qui vient de susciter ou bien qui vient de déclencher cette réaction. Mais c'est de regarder un peu plus loin que ça. Parce que la même parole, la même personne n'a pas le même effet sur les autres que nous. Alors pourquoi cette personne, pourquoi cette parole nous met dans cet état? Et on peut la tuer, cette personne-là, on peut l'effacer de la surface de la terre. Ça va s'apaiser pendant quelques instants, mais ça va réapparaître à un moment donné. Parce que on a seulement enlevé une condition. Mais toutes les autres conditions qui ont fait que cette formation-là apparaisse sont toujours là. Et tant qu'on n'a pas compris toutes les autres conditions et qu'on efface une condition puis qu'on pense qu'on a fini, on n'a pas fini. Et c'est pour ça qu'on est toujours pris dans ce qu'on appelle la roue du samsara. Ça se répète et notre histoire est un éternel recommencement. Et ce qui arrive une fois va se répéter. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais ça m'arrive très souvent, trop souvent. Et à chaque fois, je me tape dessus, puis je me dis, quand est-ce que tu vas finir par apprendre? Et je n'ai pas encore appris. Et je n'ai pas fini d'apprendre. Et je veux continuer d'apprendre. Et c'est pour ça que je suis dans cette pratique. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de... Ok. Donc, toutes ces conditions-là que nous parlons, c'est par la pratique de la pleine conscience qui nous permet de pouvoir être là, en observation, pour pouvoir observer sans tout de suite réagir ou bien se laisser entraîner par nos sensations et nos sentiments. Mais rester là pour pouvoir observer ce qui est en train de se passer et comprendre toutes les conditions qui ont contribué à cela. Parce qu'on sait que s'attarder ou bien enlever une condition ne va pas régler les problèmes. Parce que c'est un ensemble de choses, parce que c'est une formation et que c'est très complexe. Et que parce que c'est complexe que nous avons besoin de toute notre intelligence et de toute notre concentration pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que nous voulons pratiquer à chaque instant de notre vie pour pouvoir augmenter notre capacité, notre énergie de pleine conscience et notre capacité de concentration pour pouvoir observer quelque chose lorsque ça se présente avec toute l'attention et toute l'énergie que ça nous prend. Donc, dans notre vie de tous les jours, je parle du serpent. Le serpent, c'est cette chose-là qui nous empoisonne l'existence. Pourquoi je parle du serpent? C'est parce que je prends l'exemple d'un jardin. Et dans ce jardin que nous aimons beaucoup et que nous voulons faire en sorte que ce soit un endroit plaisant retourné, surtout avec l'été qui s'en vient. Et malheureusement, dans ce jardin, pendant notre absence, il y a un serpent qui s'y est installé. Et le serpent qui s'y est installé, il n'aime pas avoir de visiteurs et il ne veut pas nous voir là. Et quand un serpent ne veut pas nous voir là, il se manifeste et il se manifeste dangereusement. Et on a peur de lui. Et parce qu'on a peur de ce serpent-là, on a moins envie ou on n'ose pas retourner dans le jardin. Et plus on est absent, et plus il va grandir et proliférer. Et non seulement il y aura ce serpent, mais d'autres bibittes qui vont apparaître. Et puis à un moment donné, le jardin va être hors de... envahi. Et... Mais pour nous, ça va être un hors quelque chose. Plus que d'atteinte. On n'ose pas y aller. Hors d'atteinte, c'est parce qu'on ne peut pas y aller, mais ça, c'est parce qu'on... Et lorsqu'on fait ça, on vient de mourir. On vient de mourir parce qu'on n'a plus aucune chance de pouvoir accéder à ce jardin. Et la façon dont on veut le faire, ça s'appelle... j'ai pas le nom. Mais en tout cas, la pratique que nous voulons faire, c'est d'y aller. Et parce qu'on est mal équipé, ou bien parce qu'on ne sait pas comment, ou bien parce qu'on est trop faible en termes d'équipement, on se fait accompagner. Alors, on appelle nos amis, on appelle notre sangha, on appelle nous pour qu'ils viennent pour nous aider à identifier et à neutraliser ce serpent qui est dans notre jardin. Alors, lorsque j'étais dans la retraite que je viens de faire en Caroline du Nord, il y avait un monsieur qui était grand comme ça. Puis là, je dis, « Hey, moi, je veux que tu viennes avec moi. » Puis il y a un autre. Puis... Donc, on était trois pour y aller. Puis chacun, on avait une job à faire pour visiter mon jardin. Puis là, je dis, « Toi qui es le grand, tu peux prendre un grand panier. Et puis, tu es assez grand pour pouvoir le porter. Puis, non pas t'accrocher après. Alors, tu prends le panier. Puis toi, là, qui es costaud, prends donc une grosse roche avec toi, puis là tu peux le porter. Et puis la troisième personne va essayer d'attirer le serpent. Alors lui, c'est le courageux. Alors il vient là, puis là, puis là le serpent s'en vient. Alors l'autre avec son gros panier, puis là le serpent il s'est aperçu, bon ben je me suis fait avoir, mais... Là, c'est mon gros chum qui va venir avec son gros boulder, puis qui va le mettre par-dessus. Puis là, on est quatre à regarder le panier, puis on est content. Le serpent est pris dans le panier, il y a un gros boulder par-dessus. On est en sécurité. On vient d'isoler le serpent. Et selon l'enseignement de la vision juste, le serpent est ce qui est, parce qu'il a été alimenté. Et lorsqu'on l'a identifié et qu'on l'a mis sous le panier, on vient de l'identifier. C'est qui le serpent? C'est quoi le serpent? Et on vient de le circonscrire. Non seulement on l'a circonscrit, on vient de couper son alimentation. Parce que dans le panier, il n'a plus rien pour s'alimenter. Et lorsqu'il n'a plus rien pour s'alimenter, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va maigrir. Il va perdre des forces. Il va finir par mourir. Et il va finir par disparaître. Et c'est comme ça que je veux traiter les serpents qu'il y a à l'intérieur de moi. Et c'est ce que j'invite nos amis à faire. L'identifier, le circonscrire, le neutraliser et couper son alimentation. Et pendant ce temps, parce que ça va prendre du temps, un serpent qui a pris 100 ans pour grandir ne va pas disparaître en 2 jours. Il va prendre du temps. Et puis un serpent, ça prend du temps. Il est capable de se renourrir et de se... Puis il va maigrir, mais ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il disparaisse. Mais pendant tout ce temps-là, il est inoffensif. Et c'est pendant ce temps-là que nous voulons prendre pour pouvoir aller planter nos bulbes et nos fleurs, et etc. Et une fois que toutes les fleurs autour seront belles et tout ça, le serpent ne sera plus là et toutes les belles fleurs seront là pour qu'on puisse en profiter du jardin. Alors c'est ça la pratique du serpent que je voulais vous partager. Et avec la pratique du serpent, il y a les 4 diligences. Les 4 diligences qui sont aussi une autre façon de regarder la pratique du serpent et qui est aussi une byproduct, une conclusion ou bien une suite de la vision juste. Quand une manifestation, une formation mentale positive se manifeste, essayez de la garder le plus longtemps que possible dans notre conscience mentale. Alors lorsqu'on se sent joyeux, heureux, généreux, amoureux, compréhensif, etc., c'est de nous garder dans cet état-là aussi longtemps qu'on peut. Parce que ça aussi c'est impermanent, puis ça va finir par s'en aller. Puis lorsque ça s'en va, essayer de faire en sorte qu'il soit toujours là, ou bien qu'il reste là le plus longtemps que possible. Alors c'est la première diligence. Le deuxième effort, c'est lorsque cette chose-là n'est pas là, faire en sorte pour qu'elle apparaisse. Et on pratique la respiration consciente, on sait que nous avons de l'amour et de la joie à l'intérieur de nous. C'est d'aller la toucher pour la permettre de pouvoir se manifester. Et une fois qu'elle se manifeste, pratiquer la première diligence qui est de la garder dans la conscience mentale le plus longtemps qu'on peut. La troisième diligence, lorsqu'une formation mentale néfaste se manifeste, faire tout ce que nous pouvons pour la ramener à l'état de dormance. Le serpent, ramenons-le dans la conscience de tréfond et demandons-la de se reposer et de nous laisser tranquille. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et c'est le serpent encore. Si une formation mentale, si une graine de formation mentale néfaste n'est pas touchée, n'est pas excitée, faire en sorte de ne pas y toucher. Et ce n'est pas seulement notre pratique, mais c'est une pratique de sangha. J'ai en moi des graines de trahison. J'ai en moi des graines de colère, j'ai en moi des graines de... etc. S'il te plaît, si tu m'aimes, laisse ces graines-là tranquilles. Ne les arrose pas. J'ai plein d'autres fleurs. Pourrais-tu, s'il te plaît, arroser mes fleurs pour que je sois belle, pour que je sois beau? Parce que toi, tu vas être celui qui pourra en profiter. Et c'est une merveilleuse pratique de communauté, c'est une merveilleuse pratique de couple et de relations. Parce que ne nous leur compas. Nous avons tous les mêmes graines. Sauf si nous les avons toutes nettoyées, puis il y a une seule personne qui les a toutes nettoyées, et il s'appelle le Bouddha, et il est mort il y a 2600 ans. Et ça fait 3000 ans qu'on essaie de retrouver un autre, et il n'y en a pas encore. On dit qu'il apparaît seulement une fois aux 3000 ans. Alors ça prendrait encore 400 ans avant qu'un autre apparaisse comme ça. Mais nous portons toutes les mêmes graines à l'intérieur de nous. Et les formations mentales que nous allons développer dépendent de notre environnement. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de savoir de quoi nous nous nourrissons et de quoi nous alimentons nos amis. Et notre famille, et notre femme, et notre conjoint, et etc. Et c'est ce qui m'amène de vous parler des quatre nourritures. Je viens de... We enjoyed. On a eu un très bon repas en silence. On a contemplé nos aliments et on a pu se nourrir, corps et esprit, dans la joie et en communauté. Les aliments comestibles sont une forme d'aliment. Mais il y a trois autres formes d'alimentation. Et ce sont... Et finalement, c'est la conscience que je voulais vous apporter comme source d'alimentation. Dans le sutra sur l'alimentation consciente, le Bouddha a suggéré une image qui est très drastique. Et c'est l'histoire d'un criminel qui a été condamné à mourir par coup de couteau, stabbing. La punition, c'était de 100 coups de couteau aux endroits qui sont les moins létales, létaux. Donc, 1, 2, 3, 100 fois. Le geôlier qui a fait la job rentre pour dire 100 coups, puis il est toujours vivant. Qu'est-ce que je fais? Laisse-le là pendant 4 heures, puis revient. Après, il est toujours vivant. 100 autres coups. Jusqu'en soirée, toujours vivant, sans autre coup. Et le Bouddha demande, comment pensez-vous que cette victime-là peut se sentir? Naturellement, c'est quelque chose qui est... Ça me donne des frissons et je ne sais pas le degré de cruauté, de douleur que ça peut occasionner. Et le Bouddha a dit, vous savez, c'est ce que nous nous faisons continuellement avec notre esprit. L'alimentation de l'esprit, c'est comme cette personne-là qui est là. Alors, nous sommes une victime, ou l'esprit, le bourreau, la victime, whatever, ou bien le criminel, mais c'est ce que nous faisons continuellement avec notre esprit, avec nous-mêmes. Notre esprit, c'est notre bourreau, et notre esprit, c'est aussi la victime qui reçoit les coups. Alors, regardons-nous, et que sommes-nous en train de nous faire? Est-ce que nous sommes en train de nous stabber à mort? Une mort qui n'arrive pas, qui ne vient pas. Et nous continuons à le faire. Regardons aussi de quoi nous alimentons notre entourage et notre sangha et nos amis et ceux que nous disons que nous aimons. Est-ce que nous leur apportons de la joie et de l'espoir ou sommes-nous aussi en train de les stabber un coup après l'autre? Et donc, les quatre établissements de la pleine conscience. Un entraînement, un sutra merveilleux qui est à la base de toute la pratique de pleine conscience, de toutes les écoles de méditation. Et c'est la pratique qui peut nous permettre de pouvoir nous libérer de toutes les sources d'affliction et de souffrance. Pour nous et pour tous les êtres. À la base, c'est la pleine conscience. La pleine conscience de notre alimentation, la pleine conscience de ce que nous alimentons en nous et chez les autres. Et je pense que j'ai déjà abusé du surtemps, donc je vais m'arrêter ici, vous remettre le plancher. Je vous remercie pour votre attention et votre présence.